suite des matins où l'on va filer la métaphore des bâtisseurs, la métaphore de la reconstruction après la crise, après l'incendie de Notre-Dame, mais aussi après la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a déclaré hier à la télévision souhaiter que Notre-Dame soit rebâtie d'ici 5 années. Au cours de cette allocution télévisée, le président de la République a convoqué la portée historique et symbolique de cet édifice et il a considéré que le peuple français était, je le cite, un peuple de bâtisseurs qui devait s'unir pour permettre à tous et à la nation de devenir meilleur que nous ne le sommes. À 7h42, on évoque cela en compagnie de deux chercheurs. Bruno Cotrès, bonjour, vous êtes chercheur au CNRS et au CEVIPOF, à Sciences Po, enseignant également à Sciences Po. Patrick Garcia, bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Cergy-Pontoise et chercheur à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Évoquez les Français comme un peuple de bâtisseurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, Patrick Garcia?
Écoutez... Ce qui est très, très intéressant, évidemment, dans cette séquence, c'est la transformation de la catastrophe, l'incendie de Notre-Dame, en une épreuve, et une épreuve qui appelle la mobilisation. Donc on est dans un schéma assez classique de la politique française, c'est l'appel au surmoi, et donc à une qualité qui serait une qualité intrinsèque de la France, peuple de bâtisseurs. Donc comment, en définitive, cette séquence va sert, en définitive, dans un discours de mobilisation. Et je suis assez frappé, moi, par le fait que, en définitive, on est un peu dans le même registre que les séquences politiques après les attentats. L'appel au sursaut, l'appel au surmoi, l'appel à la mobilisation, à l'unité, évidemment. Donc on a des choses là, qui sont très, 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 très classiques, d'une certaine manière.
Bruno Cotrès, est-ce que l'autre caractéristique du peuple français, c'est d'être souvent suspicieux? Est-ce que ça n'est pas de l'instrumentalisation?
En tout cas, c'est de la part d'Emmanuel Macron hier, c'était un discours et une prise de parole avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de métaphores et beaucoup de sous-entendus par rapport à la crise que nous venons de vivre depuis plusieurs mois, la crise des gilets jaunes. Effectivement, on peut lui faire le reproche de vouloir glisser un message ou plusieurs messages entre les lignes de son discours qui portait sur la catastrophe, sur le drame de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Effectivement, on pourra reprocher Emmanuel Macron, mais je pense qu'il était déjà, lui, dans le fait de poser des jalons par rapport aux annonces qu'il va faire dans quelques jours. Et effectivement, cette métaphore du peuple bâtisseur, avec un Emmanuel Macron au sommet, qui est lui le visionnaire qui montre la voie de la reconstruction, est une métaphore qu'Emmanuel Macron utilise depuis le début dans sa campagne électorale. Il y a un des discours de sa campagne électorale où Emmanuel Macron, faisant référence à la génération de l'après-guerre, dit qu'il faut se réinscrire dans cette perspective de reconstructeur, et ce vocabulaire de reconstruire, de rebâtir est fréquemment utilisé. N'oublions pas Édouard Philippe, par exemple, qui très souvent dit qu'il faut réparer la France. Donc on voit qu'on a très souvent cette métaphore d'une équipe d'ingénieurs qui est là pour reconstruire, pour rebâtir la France, et qui en appelle effectivement au sursaut de l'intérêt général.
Bon, mais alors est-ce que la rhétorique peut fonctionner? Est-ce que d'une certaine manière, le président de la République peut sauver Notre-Dame et Notre-Dame sauver le président de la République?
Oui, c'est un peu de ça dont il s'agit, effectivement. Il faut que l'incendie permette à Emmanuel Macron de renaître de ses cendres, si je puis dire. Et lui, dont on avait le sentiment en décembre, janvier, qu'il était carbonisé, c'est effectivement pour lui une opération de renaissance dont il s'agit. Donc c'est très, très, très fortement métaphorique. J'observe néanmoins que Emmanuel Macron a pris beaucoup de soin hier à montrer, à poser des jalons sur la question de la cohérence de son projet, la cohérence de son discours. Il y a de très nombreuses références qui ont été faites hier à des éléments très importants de son discours depuis quasiment le début.
Patrick Garcia, est-ce que ça peut fonctionner ainsi?
Écoutez, ça, l'avenir le dira. Moi, ce qui me frappe dans ce discours, c'est quand même un thème qui est le thème de l'identité nationale. Cette idée de la France, hein, des caractéristiques de la France millénaire, d'une France de la continuité. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'ingénierie à développer, mais voilà, là on a des thèmes aussi d'un très profond classicisme, c'est du Lavis, une histoire continuiste, ou du mono, une histoire continuiste de la France, France millénaire, qu'on va poursuivre. Et puis,
est-ce que c'est pas tautologique, justement, pour un historien, l'histoire continuiste?
Ah non. Bah, vous savez, il y a deux façons de considérer l'histoire. Soit on la considère comme le produit de la continuité, soit on s'intéresse aux changements et ruptures.
Mais l'histoire discontinuiste, lorsque, justement, on fait appel à l'existence d'un peuple, alors que l'on dise de ce peuple qu'il est bâtisseur ou réfractaire, d'ailleurs.
Oui.
Est-ce que justement, ça n'est pas toujours l'idée de tracer des continuités, que celles-ci soient
objectives ou réelles ? Absolument, mais là on est dans une fonction présidentielle. C'est une fonction du discours présidentiel que de dire une espèce d'essence de la France, d'état de la France, de pérennité. Hein, voilà, ça fait partie des fonctions du président. Hein. Et en même temps,
L'essence, on peut peut-être fabriquer l'essence qui vous arrange au moment où elle vous arrange.
Bah, de toute façon, on fabrique toujours l'essence au moment ad hoc et l'essence qui arrange. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est cette idée d'essayer d'ouvrir l'avenir. Hein. À un moment donné, il dit aussi nous sommes ce que nous avons été. Alors là, c'est le topos commémoratif, hein, on dirait du Renan. Hein, citant le chant spartiate et dans qu'est-ce que la nation et qu'est-ce qu'une nation et réfléchir à ce que nous devons être. Donc cette articulation entre cette passé, ce passé décrit comme immémorial, continue et puis cette ouverture sur cet avenir à construire ensemble. Effectivement, là il y a alors vous avez parlé d'instrumentalisation, je dirais pas instrumentalisation, il y a un usage politique, je dirais assez ordinaire, d'un moment critique d'une crise.
Bruno Cotterêss, alors, il y a eu donc cette promesse de reconstruire Notre-Dame d'ici 5 ans, et puis il devait y avoir des annonces, il n'y a pas eu d'annonces, mais ces annonces ont fuité. Alors, je vais en citer quelques-unes, et vous allez nous donner votre sentiment. On a évoqué des baisses d'impôts pour les classes moyennes, aucune fermeture d'écoles et d'hôpitaux jusqu'à la fin du quinquennat, une réindexation des petites retraites, des retraites inférieures à 2000 euros, et puis également une suppression de l'ENA. Votre point de vue sur ces différentes mesures qui ne sont pas toutes homogènes les unes avec les autres d'ailleurs?
Non, il n'y a pas de surprise considérable par rapport à ce qui était attendu. Au fond, les mesures qui sont prises dans le domaine fiscal ou dans le domaine socio-économique sont très largement des mesures qui étaient anticipées et qui étaient des mesures qui étaient assez attendues. De ce point de vue-là, il n'y a pas non plus de grands chocs. Réindexer les retraites les plus modestes sur l'inflation était très largement une question qui était acquise. Il n'y a pas non plus énormément d'inflation, donc c'est pas ça qui va non plus rehausser considérablement le niveau de vie des retraités. Et sur tout l'aspect socio-économique, je crains que ça ne réponde pas à la préoccupation qui s'est exprimée à travers la grande crise que nous venons de vivre, l'idée d'une société profondément inégalitaire, injuste, où les dés sont joués d'avance pour beaucoup d'individus, où beaucoup ont le sentiment que, à l'issue de toute une vie de travail, ils continuent à avoir des difficultés, qui n'ont pas vu leur rémunération augmenter, que on peut toujours pas vivre totalement dignement du fruit de son travail. C'est quand même ça dont il a été question dans cette crise, et je n'ai pas le sentiment qu'on va avoir un changement révolutionnaire. De ce point de vue-là, le fameux effet de blast n'aura lieu qu'à la marge. Et sur l'aspect institutionnel, c'est aussi beaucoup de mesures qui étaient attendues. La petite surprise, qui n'est qu'une demi-surprise, serait, je dis au conditionnel, la suppression de l'école nationale d'administration. J'observe que le président est un peu en contradiction avec ce qu'il avait dit dans son livre Programme Révolution, dans lequel il se prononçait pour le maintien du concours d'entrée à l'école nationale d'administration en disant: il faut simplement réformer et diversifier le recrutement des hauts fonctionnaires, permettre à des personnes qui sont issues du privé de venir dans la haute fonction publique, et il faut arrêter les privilèges des hauts fonctionnaires à vie. Mais Emmanuel Macron ne nous dit pas par quoi il va remplacer, et on a quand même toujours...
Supprimer l'ENA, est-ce que c'est clair, Bruno Cotterêss?
Non, c'est très vague comme objectif, tant qu'on ne nous dit pas à la fois par quoi on le remplace, mais aussi qu'on ne nous explique pas comment ça s'inscrit dans un projet plus générale de transformation, de diversification du profil, entre guillemets, des élites françaises, ça paraît comme une mesure isolée et un peu la partie visible de l'iceberg, alors qu'on maintiendrait tout un tas d'autres mécanismes qui sont, eux également, très fortement évocateurs des inégalités dans la production des élites, système des classes préparatoires, filières sélectives, etc. Donc, au fond, tant qu'on ne nous explique pas ça, ça reste une mesure potentiellement très, très, très symbolique. Il faudra voir par quoi on remplace l'ENA.
Parce qu'il y a plusieurs hypothèses. On peut imaginer qu'il y aura toujours des hauts fonctionnaires, même si l'ENA est supprimée. Donc il faudra bien les recruter d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y aura une école unique qui formera les fonctionnaires? Est-ce qu'il va y avoir des recrutements par corps? Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait se produire. Mais alors, dans ce cas-là, chaque corps va réorganiser, je ne sais pas, l'inspection des finances, par exemple, organisera à nouveau son mode de recrutement et finalement, on aboutira à nouveau à la recréation d'une hiérarchie. Bref, que peut-on dire là-dessus que ça
n'est
pas encore...
Pour le moment, c'est pas encore très précis. Il faudra voir, effectivement, quand le Premier ministre, lui, va nous expliquer les modalités très pratiques, on peut dire que le projet d'ensemble, on a beaucoup dit le modèle, ça serait l'école de guerre, c'est-à-dire l'idée de ne donner les plus hautes responsabilités qu'à ceux qui ont déjà fait leur preuve dans un service actif. C'est une belle perspective, je trouve, par rapport au mode de production des élites françaises, de dire qu'il faut davantage confier les plus hautes et plus fortes responsabilités à ceux qui ont fait leur preuve. Mais pour le moment, ça reste très flou.
Et alors, si cela est flou sur les mesures que vous qualifiez, donc des mesures qui pourraient provoquer un blast, comme vous dites, autrement dit, qui pourraient permettre au pays de sortir de la crise des Gilets jaunes en donnant satisfaction finalement à ceux qui protestaient et qui protestent encore dans la rue, qu'est-ce que vous auriez pu suggérer? Qu'est-ce qu'il aurait été possible pour Bruno Cotteresse?
Je pense que c'est clairement du côté de la respiration démocratique entre deux élections que nous avons un problème en France. Ce problème a été parfaitement montré par de multiples crises que nous avons vécues depuis 15 à 20 ans en France et qui est de renouveler, de redéfinir l'expression publique et la prise de parole du citoyen entre deux élections. Beaucoup de Français ont le sentiment que tous les 5 ans, ils sont convoqués aux urnes, on vote, on est déçu.
Tous les 5 ans, c'est déjà un intervalle assez court.
Intervalle assez court, mais il y a quand même un enjeu très important dans de très nombreuses démocraties, pas seulement en France. La demande d'horizontalité, la demande de pouvoir donner son point de vue, la demande de pouvoir revenir sur un certain nombre de points une fois l'élection passée est quand même quelque chose de très important. Donc moi, c'est de ce côté-là que j'aurais beaucoup axé. Et par ailleurs, il y a aussi quand même beaucoup la question de la mobilité, de la fluidité dans les plus hauts responsables. C'est une question qui préoccupe Emmanuel Macron. Il suffit de prendre ses discours de campagne pour le retrouver.
Mais c'est une question qui, aujourd'hui, est permanente, j'ai presque envie de dire transversale. En France, on a l'impression que tout le monde s'accorde sur le constat que notre pays ne fait que reproduire les classes sociales et donc permettre la domination de la classe dominante, comme disait le sociologue Pierre Bourdieu. Mais alors, si tout le monde est d'accord sur ce constat, pourquoi celui-ci n'est pas en quelque sorte un constat qui s'accompagnerait de remèdes?
Parce qu'il n'y a pas forcément d'accord sur les remèdes et sur les moyens à mettre en œuvre. Tout le monde s'accorde globalement sur le diagnostic d'une société française qui est une société où l'ascenseur social ne va pas si bien que ça. Les sociologues montrent que c'est plus nuancé. Ils montrent qu'il y a des éléments de fluidité sociale également dans la société française. Mais par contre, sur les moyens à mettre en œuvre, les priorités de l'action publique et les priorités sur les moyens de l'action publique, on n'a pas d'accord. Rappelons-nous que le Premier ministre, lors de sa restitution du débat national, a mis comme point numéro 1 la question de la réduction de la pression fiscale et donc de la réduction des dépenses publiques. Il va falloir bien à ce moment-là dire où la réduction des dépenses publiques se fait. Et là, on verra qu'il y a des désaccords majeurs en France sur ce que veut dire réformer la France.
Patrick Garcia, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bah écoutez, moi je suis assez d'accord. Disons que la grande question qui est posée, et même si on en fait un tableau un peu noirci, c'est bien évidemment la question de la démocratisation. Et c'est vrai que, disons, se concentrer sur la question de l'ENA, Est-ce que c'est une façon de résoudre cette question? Est-ce que ça appellerait pas quelque chose qui soit beaucoup plus vaste, un chantier beaucoup plus vaste quel parcours universitaire? Et donc là, ça demanderait aussi du débat. Or, ce débat, on n'a pas toujours trouvé. Par exemple, sur la réforme de l'école et du lycée, le débat avec les acteurs, on ne peut pas dire qu'il soit extrêmement important. Et donc, voilà, ce serait un mécanisme. Et ça, c'est aussi un des problèmes qu'on peut rencontrer avec Macron. C'est à la fois cette idée qu'il faut débattre, bâtir. Mais en fait, est-ce que le débat a lieu avec quels acteurs, avec qui débattons? Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui.
Bruno Cotterêts, en quoi le fait de modifier nos institutions, de permettre aux citoyens de se prononcer de manière plus rapprochée, puisque c'était ce que vous sembliez dire, en quoi cela permettrait plus de justice sociale?
Ça permettrait peut-être pas directement plus de justice sociale, mais en tout cas l'idée de revenir régulièrement sur la question de la justice sociale et des inégalités est un enjeu absolument, absolument majeur. Au niveau des perceptions subjectives, une immense majorité de Français considèrent que la société française est d'abord et avant tout marquée par ses inégalités, ses injustices. On peut discuter de l'écart entre cette perception subjective et la réalité objective, évidemment. Mais la question des inégalités sociales reste une question absolument majeure. Emmanuel Macron a proposé aux Français de redéfinir ce que veut dire être juste et égal en France. C'est ça le cœur du projet macronien. C'est vraiment de proposer aux Français une redéfinition de ces deux adjectifs, juste et égal. Mais il se trouve que les injustices ou les inégalités dites de l'ancien monde n'ont pas disparu le 6 mai 2017.
Mais par exemple, dans le fait de revoir la fiscalité des classes moyennes, cela est en quelque sorte congruent avec le diagnostic posé pour la crise des Gilets jaunes, où il était question de classes moyennes qui souffraient beaucoup en France, qui souffraient d'une pression fiscale trop forte.
Ben, on va retrouver là toujours le débat sur qu'est-ce que c'est qu'une classe moyenne, où passe la limite, et beaucoup de Français, le risque, est-ce qu'il faudrait surtout pas, parce que là, ça
crée un effet. Le problème, c'est généralement l'inverse, c'est voilà. Voilà, tout le monde a l'impression d'appartenir aux classes
moyennes. Oui, mais ce qu'il ne faudrait surtout pas, parce que ça crée un effet de déception considérable avec des effets sans aucun doute très importants dans les mois qui arrivent, c'est qu'une grande partie des classes moyennes qui ont le sentiment d'être asphyxiées par la pression fiscale, de ne pas pouvoir voir leurs revenus augmenter, continuent d'avoir ce sentiment et qu'on retrouve un scénario habituel où une partie des Français disent « au fond, je gagne trop pour bénéficier des nouvelles mesures et je gagne pas assez pour être comme les plus aisés, c'est-à-dire qui sont au fond, qui ont des marges de manœuvre dans la vie. » Donc c'est surtout ça, c'est donner le sentiment à une partie des Français qui retrouvent des marges de manœuvre pour progresser.
Allez, Emmanuel Macron sauvera-t-il Notre-Dame? Et Notre-Dame sauvera-t-elle? Emmanuel Macron continue d'en parler dans une vingtaine de minutes avec vous, Bruno Cotterêts, chercheur au CEVIPOF, Patrick Garcia, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Vous serez rejoint par le président du Centre des Monuments Nationaux, spécialiste des usages publics de l'histoire, Philippe Bellaval. Il est 8h sur France Culture. Vous restez avec nous, avec nos invités, Bruno Cotterêts, chercheur au CNRS, au CEVIPOF, à Sciences Po, à côté de vous, Patrick Garcia, professeur à l'université de Cergy-Pontoise et chercheur à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et puis, nous accueillons Philippe Bellaval, président du Centre des Monuments Nationaux. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bellaval. Suite à ce que vient de dire Stéphane Robert, est-ce que vous n'avez pas un peu un goût amer, Notre-Dame, la tragédie, avec un afflux de dons et dans cet océan de dons, beaucoup de monuments qui demeurent à l'écart, avec apparemment beaucoup de difficultés pour entretenir ces monuments? Je ne parle pas de les embellir, de faire des travaux somptuaires, mais depuis hier, j'ai des messages de personnes qui travaillent dans certains monuments et qui nous disent, moi ça m'étonne pas parce que je suis dans tel ou tel endroit, patrimoine méconnu de la France, et j'ai des difficultés à entretenir mon édifice.
Ce que nous vivons depuis deux jours est clairement de l'ordre de l'extraordinaire. L'ampleur du sinistre, l'ampleur de l'émotion que cela suscite et tout ce qui se passe après, tout le débat que vous évoquez sur le financement, les sommes incroyables qui parviennent. Nous avons nous-mêmes ouvert à la demande du ministre Franck Hester une plateforme sur laquelle les dons affluent et parfois des tout petits dons de 2 euros seulement. Hein. Voilà. Et donc tout ça est vraiment extraordinaire. Alors moi je crois qu'effectivement il y a une responsabilité de l'État parce que d'abord, Notre-Dame de Paris, comme les grandes cathédrales qui étaient en fonction au moment de la séparation des Églises et de l'État, lui appartiennent. Et par conséquent, il a quand même la responsabilité du propriétaire. Voilà. Puis d'autre part, on est clairement, face à Notre-Dame de Paris, devant un monument extrêmement emblématique, en tout cas représentatif, je préfère ce mot, de l'identité nationale, des grands éléments qui font l'histoire de la nation, qui forment son paysage intellectuel et culturel. Et dans un pays où, comme vous l'avez dit, l'État est le garant des grands enjeux de l'identité nationale et de la continuité de la nation, eh bien c'est vers lui que l'on se retourne. Alors après le débat sur le mécénat, bon, le mécénat est utile évidemment et au cas particulier il est spécialement émouvant parce que il traduit l'émotion populaire et le lien du patrimoine et de la nation. Mais il est exact qu'on oublie trop souvent, quand on en parle, que ce n'est pas nécessairement de la générosité pure et que selon que les mécènes choisissent d'utiliser ou pas les avantages fiscaux qui sont liés au mécénat, eh bien, leur générosité est plus ou moins importante.
Mais Philippe Bélaval, vous qui êtes en charge des monuments nationaux, est-ce que oui ou non, des monuments nationaux sont aujourd'hui dans un état piteux ? Et encore une fois, je ne parle pas de faire des travaux de confort, mais je parle de travaux de sécurité. On a des témoignages dans ce sens. Est-ce que c'est vrai ?
Le chantier patrimonial dans un pays comme le nôtre est absolument considérable.
Et, donc la réponse est plutôt oui.
Et les besoins sont effectivement très au-delà de l'effort annuel qui est fait par l'État et par les collectivités territoriales. Ce que je crois surtout, et si vous voulez, cet exemple de Notre-Dame va d'ailleurs apporter un peu d'eau à ce moulin-là, c'est que trop souvent en France, on procède par à-coups. C'est-à-dire que en période normale, le patrimoine a tendance à passer derrière d'autres préoccupations politiques ou d'autres préoccupations culturelles. Et puis, il y a un événement particulier qui amène une prise de conscience, parfois tragique, comme celui que nous vivons. Et à ce moment-là, l'argent afflue. Puis, on va certainement, dans quelques années, retomber à un étiage plus bas. Et en réalité, ce qui serait sage par rapport au monument, c'est d'avoir une régularité de l'effort. D'abord parce qu'un entretien régulier éviterait de très coûteuses opérations de restauration, et puis d'autre part, cet entretien régulier pourrait conforter les conditions de sécurité.
Philippe Bélaval, une question compliquée. D'après vous, quelle est la fourchette, l'ordre de grandeur de la somme qui va être nécessaire pour reconstruire Notre-Dame ?
Assurément, enfin, je ne me prends pas beaucoup de risques, hélas, en vous disant plusieurs centaines de millions d'euros. Plusieurs centaines de millions d'euros. C'est tout l'enjeu.
A priori, aujourd'hui, on a environ, mettons, 800 millions d'euros qui ont été collectés.
Oui, et on n'est pas au bout du processus.
Donc alors, plutôt 1 milliard, des milliards ?
Écoutez,
je cherche pas à vous faire faire un devis, puisque vous n'avez pas vu l'état de la toiture, mais en l'occurrence,
la toiture, hélas,
elle est dans un état que l'on connaît. Mais la question, si vous voulez, qui se pose, elle est double, et on l'entend aujourd'hui très clairement. Il y a des gens qui sont encore une fois impliqués dans le patrimoine à l'échelle locale et qui vous disent finalement, ce chantier, évidemment nécessaire, puisque tout le monde est ému devant l'état du monument, eh bien, ce chantier va absorber la totalité des crédits qui sont accordés, soit directement, soit indirectement au patrimoine français.
Mais c'est l'intérêt précisément de cet afflux de mécénat de réduire cet effet d'éviction. Parce que s'il n'y avait pas le mécénat et si effectivement les crédits de restauration des monuments historiques, c'est de l'ordre de 300-350 millions par an au niveau du ministère de la Culture.
Alors vous vous rendez compte de
ça? Oui, ça voudrait dire que s'il n'y avait pas les mécènes et les donateurs, eh bien, il y aurait une éviction complète, c'est-à-dire que l'État ne ferait plus que Notre-Dame de Paris pendant un certain nombre d'années, et alors là, au détriment de tout le reste.
Parce que, comme l'a expliqué Stéphane Robert, lorsque une grosse fortune ou une petite fortune d'ailleurs fait un don pour sauver Notre-Dame, la réduction d'impôts fait que de toute façon, c'est la collectivité nationale qui finalement va en quelque sorte prendre de l'argent, et donc on a une sorte de fléchage patrimonial, et avec beaucoup d'inquiétudes dans les campagnes pour ce qu'on appelle le patrimoine modeste, qui déjà n'allait pas très très bien, que ça aille encore plus mal.
C'est ce que disait Jean-Paul Siret tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on force la main, on force la main à Bercy. Mais notre dispositif de fiscal d'incitation au mécénat, ce qui est absolument formidable, ça je crois qu'il faut le redire, c'est que il vaut aussi bien pour le petit patrimoine que pour le grand. La fondation du patrimoine, justement, sa vocation prioritaire, c'est pour le patrimoine dit de proximité ou vernaculaire, parfois dit petit patrimoine, j'aime pas du tout cette expression, mais voilà, donc si vous voulez, chacun s'y retrouve, mais c'est vrai qu'en fonction de la situation fiscale des uns et des autres, l'effet, l'impact est plus ou moins important. Et on ne voit que le don, on ne voit pas toujours la charge réelle pour le donateur et pour l'État.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est-à-dire que, si vous voulez, on s'extasie devant le montant des contributions, mais en réalité, vous voyez, vous parlez des 800 millions, mais on ne fait pas forcément le calcul après déduction fiscale de la charge qui reste véritablement sur les donateurs et de celle que l'État, par le fait même, va être amené à supporter.
C'est un calcul compliqué parce que le montant des déductions est plafonné.
C'est un calcul.
Ça n'est probablement pas la totalité de ces sommes.
Mais au moins pourrait-on, dans les débats qu'on a ici ou là sur le mécénat, quand même rappeler cela. Je crois que c'est quand même extrêmement important parce que dans un pays, il y a un moment où la question du rapport à l'impôt, de la charge fiscale, etc., est en débat. Eh bien, c'est une des données du problème.
Philippe Bélaval, vous pouvez le dire maintenant, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2 ans. Est-ce que l'état de notre patrimoine est lié à un désinvestissement important des autres gouvernements, donc des gouvernements précédents? Est-ce que, véritablement, on a laissé une situation se détériorer?
Il y a eu surtout, si je regarde la période passée, c'est peut-être le plus grand reproche que je ferai, c'est qu'il y a eu trop d'à-coups dans la politique du patrimoine et dans les moyens qui y sont consacrés. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez voilà des coups d'accélérateur qui sont suivis de coups de frein. Et ça ne fait pas avancer correctement le char du patrimoine.
Alors, coup d'accélérateur, reconstruire Notre-Dame en 5 ans, est-ce que ça vous paraît réaliste? Est-ce que ça vous paraît aussi, souhaitable?
C'est extrêmement ambitieux. Après, c'est toute la question des moyens que l'on y met, des procédés que l'on choisit, de l'organisation de chantier que l'on choisit. Si on travaille en 3-8, par exemple, il est clair que on va plus vite que si on ne travaille pas en 3-8.
Bon, avec des coûts, mais évidemment, non, beaucoup plus importants.
Moi, je crois, bien sûr, je crois que le point principal, et celui qui, personnellement, me fait le plus de soucis aujourd'hui, c'est ce qui a lieu avant le chantier. C'est-à-dire, d'abord, le diagnostic sur l'état réel de la cathédrale, pas ce matin, mais dans 6 mois, dans 1 an, quand le choc thermique et le choc aquatique seront complètement évalués. Bon, et ensuite, le débat subséquent sur les choix de restauration, les états de restauration, les techniques de restauration. Et avant même que le premier coup, si vous voulez, de truelle ou de puisse être donné, il y a une période qui va nécessairement être de quelques longueurs, je crois.
Et Stéphane Robert.
Du coup, est-ce qu'il est bien sérieux, à peine 48 heures après cet incendie, de donner une échéance comme ça, 5 ans ?
Mais je crois que face à l'ampleur du traumatisme national et international, il est nécessaire de donner une perspective volontariste. Et je pense que c'est l'intention qu'a eu le chef de l'État en fixant cet objectif. J'ajoute une chose. C'est que bon, l'enquête va dire ce qui s'est passé exactement, quelles sont les causes de cet incendie, s'il y a eu une défaillance dans la sécurisation du chantier, dans la mise en œuvre des processus prévus, pas prévus. Bon, c'est l'enquête qui le dira. Mais si vous voulez, il est quand même, il faut pas occulter le fait que ce sinistre est un échec. C'est un échec absolument dramatique. Évidemment, tous les conservateurs du patrimoine, quelle que soit leur fonction, sont un échec. Et cet échec, face au devoir de transmission du patrimoine, bon, il est impérieux de le réparer, et aussi vite que possible.
8h34 sur France Culture. Dans les matins, on continue d'évoquer la reconstruction de notre drame, bien entendu, et reconstruction aussi de la société française après la crise des Gilets jaunes. Nous sommes en compagnie du président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bellaval, du chercheur au CEVIPOF, Bruno Cotterès, et de Patrick Garcia, qui est chercheur à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Patrick Garcia.
Oui, moi je retiens de ce que vient de dire Philippe Bellaval, d'abord le désir de programmation. Mais c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que en fait, si on prend chaque secteur de l'État, on va avoir la même chose, on va avoir partout une demande de programmation, comme si la programmation était quelque chose d'absolument impossible en dépit de la croissance de la technicité de l'État. Bon, je trouve ça toujours très intéressant. Et puis 5 ans, c'est les JO. Hein, c'est aussi l'idée que Paris a été défiguré, que Paris doit être reconstruit, ou en tout cas que la figure de Paris doit être réparée.
Un monument.
Le monument, oui, mais je crois qu'il y a quelque chose. Notre-Dame n'est pas n'importe quel monument, c'est un lieu mondial. Hein, c'est un lieu absolument qui est connu de par le monde, grâce aux dessins animés, grâce aux films, grâce à la photographie, un lieu figé, et cette idée qu'on va réparer le visage de Paris.
Oui, je retiens deux points. Il y a effectivement, on voit un problème qui est récurrent dans l'action publique en France, qui est celui de la programmation par rapport au principe sacro-saint de la loi de finances annuelle. Et ça n'est pas le seul domaine de l'action publique qui régulièrement est amené à dire il faudrait programmer sur plusieurs années. Le législateur fait des progrès de ce point de vue-là sur l'idée d'une programmation pluriannuelle, mais on a ce principe sacro-saint de l'annuité budgétaire. Et par ailleurs, je retiens beaucoup de votre propos, la question du temps et de la parole de l'exécutif sur le temps que va prendre non seulement l'enquête, mais toute la mise en musique administrative, gestionnaire. Il va y avoir sans aucun doute un concours international pour sélectionner les futurs bâtisseurs, les futurs, j'imagine
comment
mal.
Comment ça se passe? J'imagine parce que les règles des marchés publics sont assez précises. Philippe Bellaval, vous qui êtes président du Centre des Monuments Nationaux, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? D'abord, vous parliez d'état des lieux, mais alors on ne va malheureusement pas pouvoir le faire d'emblée, parce que il y a des questions, vous parliez des effets de l'eau, etc. Il va falloir les juger dans quelques mois.
Mais quelques mois, voire davantage, parce que je lisais par exemple dans le reportage, un reportage fait à l'intérieur de la cathédrale, que les stalles sont noircies, les stalles du chœur sont noircies. Quel est ce noircissement? Est-ce que c'est juste la fumée qui s'est déposée, de la poussière qui s'est déposée? Est-ce que d'autres produits venant de la fonte du plomb qui viennent de là? Donc il va y avoir des analyses
ça change
à
tout
faire. Oui, bien sûr, ça change tout. Mais parce que les réactions chimiques des différents matériaux, c'est de la chimie à la base. Donc les réactions chimiques des matériaux vont évoluer dans le temps. Donc il va falloir se demander quel est cet argent noircissant. Est-ce qu'il suffit de passer un coup d'encaustique? Est-ce qu'il faut faire un traitement plus poussé, etc. Et ça, pareil pour les vitraux, évidemment. Le verre qui bouge différemment. Les pierres des différentes périodes correspondant à celles d'origine.
Est-ce que le plomb fondu, c'est très embêtant pour la restauration, Philippe Bellaval?
Si vous voulez, je crois pas qu'il y ait de tableau d'horreur de ce qui est embêtant pour la restauration. Tout est embêtant pour la restauration.
Ah donc c'est pas, il y a pas de tableau d'horreur. Tout est
pareil. Si vous voulez, c'est un sinistre de première grandeur. Il faut pas se le dissimuler. Et donc ça va impliquer des études extraordinairement approfondies. Je crois que le président de la République a raison de dire que la cathédrale d'ailleurs sera probablement plus belle après, parce que des restaurations qui n'étaient pas programmées dans le plan antérieur, du coup, vont peut-être être possibles, du fait de l'afflux financier, etc. Mais ça passe par beaucoup d'études, de réflexions préalables et de débats, probablement, de débats scientifiques, historiques.
Alors, justement, dans les débats scientifiques, dès ce matin, Philippe Bellaval, vous qui êtes président du Centre des Monuments Nationaux, il est beaucoup question du rôle de la charpente, parce que la charpente, c'est pas seulement un toit, elle a aussi un rôle dans la solidité de l'édifice, le fait qu'elle soit aujourd'hui par terre. Est-ce que ça ne pose pas de sérieuses questions sur la solidité des voûtes de l'édifice, au global?
Bien sûr que si, bien sûr que si. Et ça pose une première question qui va être la mise hors d'eau de ces voûtes, parce que chaque jour de pluie va apporter de l'eau supplémentaire sur des structures qui en ont reçu beaucoup, malheureusement, lundi. Donc déjà,
alors, la mise hors d'eau, il faut beaucoup de temps pour un édifice.
Si vous voulez, sur une maison particulière, on peut bâcher. Est-ce qu'on peut bâcher une structure? Est-ce que c'est suffisant sur une structure de cette ampleur? Est-ce qu'il faut édifier un parapluie?
Est-ce que vous avez des précédents à l'étranger, je ne sais pas, la Fenice à Venise lorsqu'elle a brûlé? Est-ce que les mises hors d'eau, on a des idées du temps qu'il faut pour les mettre en place, des techniques à utiliser?
Bien sûr, on a des précédents et on a des techniques, mais un parapluie à la taille d'un édifice comme Notre-Dame de Paris, c'est évidemment un chantier en soi. C'est une sorte d'exploit.
Et puis, il y a une autre question aussi sur cet incendie et ses conséquences sur la politique patrimoniale. Jusqu'ici, Bruno Cotterêts, Emmanuel Macron était le tenant, il l'avait fait pendant la campagne, d'une sorte de pluralité patrimoniale, considérant qu'il y avait la culture classique française, mais qu'elle ne devait pas être prédominante. Et puis il y a eu une inflexion avec le loto du patrimoine, et aujourd'hui avec ce drame, avec l'incendie de Notre-Dame, il est question cette fois-ci d'une ligne beaucoup plus classique, en tout cas d'un discours plus classique sur le patrimoine français. Cela témoigne-t-il, selon vous, d'une évolution, d'un choix politique? Est-ce inspiré par les circonstances?
Sans doute, mais j'observe qu'on retrouve là aussi des lignes de continuité dans le discours d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai qu'un Emmanuel Macron qui est l'Emmanuel Macron de la France ouverte sur le monde, sur l'international, l'Emmanuel Macron qui avait effectivement invité des musiciens techno à l'Élysée, etc. Bon. Mais
une vision plus moderne.
Je relisais pour venir le livre programme Révolution d'Emmanuel Macron, et dans son livre programme, il y a quand même un chapitre qui s'appelle Vouloir la France. Et dans ce chapitre Vouloir la France, Emmanuel Macron nous dit quand même que on ne construit pas la France, on ne se projette pas si on ne s'inscrit pas dans son histoire de longue durée, ses racines et ses figures. Et parmi ces figures, il cite Clovis, Henri IV, De Gaulle, mais aussi Jeanne d'Arc, par que les tirailleurs sénégalais et les soldats de l'an 2. Donc on voit un Emmanuel Macron qui, de toute façon, s'inscrit toujours dans le mémoriel et veut toujours montrer aux Français qu'il est, lui, le point de rencontre entre différentes histoires de France et que l'objectif de son projet politique, l'objectif de son mandat, c'est d'aider les Français à continuer vouloir faire France, être France ensemble, dans une France ouverte sur la mondialisation. Donc on retrouve là un fondamental du en même temps macronien.
Oui, mais vous vous souvenez de la déclaration qui avait été largement polémique pendant la campagne. Il n'y a pas de culture française. Il y a des cultures en France, avait dit Emmanuel Macron. Le discours d'hier, le discours qu'il a tenu à la télévision était
une facture beaucoup plus classique,
très sensiblement différent de cette déclaration. Et si on voulait faire du mauvais esprit, ce qu'on ne fera pas bien entendu, Bruno Cotterêts, on pourrait dire que peut-être ça n'est pas complètement étranger au fait que Bellamy, la tête de liste des Républicains aux européennes, si on ouvre par exemple Paris Match aujourd'hui, est considéré comme étant un homme politique qui plaît beaucoup aux Français.
C'est sûr qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, même en dehors de toute considération de court terme vis-à-vis des élections européennes et de la compétition pour avoir l'électorat du centre droit et de la droite.
Même si on peut considérer quand même que ça lui traverse l'esprit, ce type de préoccupation.
Ça doit lui traverser l'esprit parfois quand même. Mais c'est vrai qu'on retrouve chez nos hommes et femmes politiques aujourd'hui ce paradoxe. Plus la mondialisation plus s'impose dans les vies concrètes, dans la vie économique, et plus le discours sur les frontières, sur la nation, sur ce qui fait la nation et l'identité revient en force. Donc c'est une sorte de paradoxe de la période de la mondialisation, c'est qu'au contraire, elle remet sur le métier, elle remet au cœur du débat politique la question de qui nous sommes, ceux qui vivent sur un même territoire.
Et puis tout de même, d'une République en marche qui est de moins en moins en même temps et de plus en plus peut-être à droite, avec une marge de progression à droite.
C'est clair qu'on voit que dans les transferts de vote, si on regarde les enquêtes d'opinion, etc., dans les transferts de vote, entre le vote 2017 et aujourd'hui, on voit clairement qu'Emmanuel Macron a perdu des marges à gauche et qu'il en a gagné au centre droit.
Donc on est plus du côté de Notre-Dame que du côté de la techno désormais.
Sans doute, j'imagine qu'Emmanuel Macron n'a pas dit son dernier mot sur
la techno,
etc.
On verra à cet égard Patrick Garcia.
Oui, je crois qu'il y a deux éléments, il y a deux dimensions. Une dimension de conjoncture, vous avez rappelé la conjoncture des européennes, mais en même temps une question de structure. Mais c'est une question qui a été posée au prédécesseur d'Emmanuel Macron. À partir du moment où on rentre dans une dynamique de reconnaissance, il y a l'autre pensée, qu'est-ce qui fait fierté ? Qu'est-ce qui fait ce que nous sommes ? Et donc, c'est le discours présidentiel, mais depuis les années 90, est structuré entre ces deux pôles. Entre d'un côté l'ouverture, la reconnaissance, le mondial, et puis d'autre part, la question de la fierté. Moi, j'étais tout à fait marqué par la réaffirmation constante dans le discours de Macron, la question de la fierté, la question de l'espérance. Donc, effectivement, là, on est dans un jeu de balance, dans un jeu, et il y a un balancier. Par moment, le discours va plus du côté de la fierté, de l'identité, et par moment plus du côté de l'ouverture.
Philippe Bélaval, président du Centre des Monuments Nationaux.
Oui, je crois, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, que précisément le patrimoine, enfin les chefs-d'œuvre de l'architecture, les chefs-d'œuvre de l'art sont des éléments de fierté collective. Et par conséquent, cette fierté ne peut pas s'accommoder de voir en plein cœur de Paris, sur l'île de la Cité, qui est le point focal de notre histoire, de notre géographie, etc., un édifice endommagé, pour ne pas dire en ruine. Ça aussi, il faut le penser par rapport à la question du délai. Les Jeux Olympiques, certains disent, bon, d'accord, mais voilà, est-ce que nous sommes prêt à passer pendant des années devant une ruine chaque fois qu'on longe la Seine, et les dizaines et centaines de millions de touristes qui vont continuer à le faire. Voilà,
c'est ça aussi. Bélaval, on n'a pas parlé que de ça, on a dit aussi à la faveur, j'ai envie de dire, car à quelque chose malheur est bon, après cet incendie, on a dit voilà, mais il y a eu un incendie à Saint-Sulpice, et puis lorsqu'on a fait des travaux de rénovation à la bibliothèque Richelieu, il y a aussi des problèmes de sécurité. Est-ce que ça ne va pas vous permettre, vous, et au sein donc du Centre des Monuments Nationaux, de réclamer plus d'argent parce que ce patrimoine, il est en péril, et un péril imminent, pas un péril esthétique.
Nous permettre de réclamer, on ne s'en prive pas.
C'était déjà le cas
peut-être
avant.
Nous permettre d'obtenir. Non, les chantiers sont de toute façon un élément particulièrement sensible, un moment particulièrement sensible de l'histoire des monuments.
Pourquoi ?
Parce que on met en œuvre des processus qui peuvent être dangereux, la soudure avec l'utilisation de flammes, enfin ou de sources de chaleur. On met en œuvre des produits dangereux, des vernis, des solvants, etc. Il y a des ouvriers qui circulent, voilà. Donc ce sont des moments particulièrement sensibles. Et nous-mêmes au Centre des Monuments Nationaux, bon, on le crie pas sur tous les toits. Et d'ailleurs, ça, évidemment. Comme ça n'appartient pas.
Vous pouvez le crier à la radio, puisque vous y êtes.
À la même ampleur. Mais non, mais il y a périodiquement des départs de feu ou des alertes sur les chantiers de restauration. Alors, heureusement maîtrisés, mais voilà, c'est une donnée. Les chantiers sont un moment très sensible dans les environnements précieux.
Et alors, est-ce que du coup, il faut pas changer les normes ? Parce qu'on dit, voilà, il n'était pas possible de mettre des sprinklers à Notre-Dame, on ne pouvait pas faire plus. Est-ce que finalement, on ne peut pas faire plus, Philippe Bellabal ? J'avoue, je n'ai toujours pas compris pourquoi on ne peut pas mettre des sprinklers sur une charpente comme cela est fait sur d'autres édifices. Les sprinklers, ce sont les petites bouches qui délivrent de l'eau en cas d'incendie.
Ça va être un débat. On peut toujours renforcer les normes. N'oublions pas quand même non plus qu'en renforçant les normes, on renforce les coûts. On augmente les coûts, si vous voulez. Moi, je veux bien qu'on mette un pompier ou des pompiers 24 heures sur 24.
Je parlais pas de pompiers, je parlais de sprinklers.
Sur les chantiers. Non, mais bon, le pompier était une métaphore en l'occurrence. Donc, si vous voulez, si plus de sécurité entraîne plus de mesures et donc des budgets de restauration ou d'intervention de plus en plus élevés, il y aura moins de restauration si les enveloppes ne sont pas indexées.